Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Dans un instant, on se pose cette question dans Estelle Midi. Faut-il arrêter de sanctionner les micros excès de vitesse? Vous nous appelez, vous réagissez au 32-16. Vous êtes sur RMC, il est 14h01.
À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet.
RMC.
L'essentiel de l'actualité avec Laurent Sègre.
Fin du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal promet que le quinquennat qui s'ouvre sera collectif auprès des Français, avec eux. Il ajoute que ce n'est pas formellement le dernier conseil de ce gouvernement, sans préciser clairement quand le prochain sera désigné. En fait, tout dépendra du moment où Jean Castex rendra son tablier. Forte baisse du chômage au premier trimestre, moins 5% pour la catégorie A, celle de ceux qui sont totalement privés de travail. En rythme annuel, la baisse dépasse 15%. Et dans ce contexte, pas moins de 4000 postes à pourvoir dans les aéroports parisiens, Orly et Roissy. Leur PDG Augustin de Romanet confie sur BFM Business qu'il a des difficultés de recrutement alors que le trafic aérien redémarre plein pot. Il était patron de la SNCF au moment de la catastrophe de Brétigny. Pourtant, c'est comme simple témoin que Guillaume Pépi a été entendu ce matin au procès de ce drame qui avait fait 7 morts en 2013. Le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, passe la journée en Ukraine. C'est sa première visite depuis le début de la guerre. Il rencontre cet après-midi le président ukrainien Zelensky. À 14h03 sur RMC, on passe aux courses maintenant. Bonjour Dimitri Blanc-L'Œil.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avec l'arrivée provisoire du quintet du jour sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, c'est Body d'Argent, le 5 qui s'est imposé avec Christophe Soumillon à la cote provisoire de 9,70€ devant le 4 Rio Corvo, le 7 My Charming Prince, le 6 Sagano et le 10 Shamsabad. Une arrivée donc provisoire pour le quintet du jour, 5, 4, 7, 6 et 10. On se retrouve nous à 15h pour l'arrivée définitive et les rapports de ce quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est toujours avec Martin Bourdin, Daniel Riolo, Laure Clausier et Julien Damon. On est avec vous aussi, bien sûr, au 32-16 ou sur l'application RMC, rubrique Direct Studio, pour réagir dans un instant à notre dernier débat. Faut-il arrêter de sanctionner les micros excès de vitesse, ceux de moins de 5 km/h? Et bien sûr, on attend vos appels. À 14h30, il y aura les immanquables sélectionnés par Martin Bourdin, les infos qu'il ne fallait pas raté aujourd'hui, avec notamment la Russie qui coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne, et l'épidémie de rougeole qui reprend partout dans le monde et qui inquiète fortement. Et puis on terminera avec le quiz, un très beau cadeau à gagner, Martin.
Une semaine pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants avec VVF. Vous allez pouvoir choisir parmi plus de 100 destinations partout en France. Vous allez pouvoir profiter d'activités sportives, d'activités en pleine nature et de l'ambiance des centres VVF pour tenter de remporter cette semaine de vacances. Vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 4 ou alors vous envoyez le mot quiz par SMS, quiz par SMS au 7-32-16.
Et on va aborder tout de suite le dernier débat dans Estelle Midi autour du chiffre du jour. 58% des PV infligés par des radars automatiques ont sanctionné des excès de vitesse de moins de 5 km/h entre 2010 et 2020. Un chiffre, Martin Bourdin, qui relance évidemment le débat sur l'efficacité des radars pour lutter contre l'insécurité routière.
Parce que selon l'association, sanctionner ces petits excès de vitesse ne sert finalement qu'à renflouer les caisses de l'État. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h, c'est une amende forfaitaire entre 65 et 135 euros, selon qu'on se trouve en agglomération ou non, et un point en moins sur le permis. Voilà ce que vous devrez payer si vous dépassez la vitesse autorisée, même de 2 ou 3 km/h, même de 1 km/h. Or, selon 40 millions d'automobilistes, ces petits excès de vitesse représentent une dangerosité moindre. Ils sont sanctionnés plus sévèrement que dans n'importe quel autre pays européen, sans que les effets ne se fassent forcément sentir sur la mortalité routière, qui n'a plus diminué de manière significative depuis 2013, rappelle l'association. Reste que la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents de la route en France. Elle est à l'origine de près d'un accident sur 3 en France. Un excès de vitesse augmente également le risque d'accident de 4%.
Alors, faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse? On vous attend bien sûr au standard, au 32-16. Et je vais commencer avec vous, Daniel Riolo.
Oui.
Ah oui.
Moi, c'est carré, là. Je pense que effectivement les... Enfin, j'allais dire condamnation, enfin les amendes pour ce genre de petits excès de vitesse, je les assimile très souvent à du racket pour, comme a dit Martin, renflouer les caisses de l'État. Et j'aimerais que il y ait effectivement dans cet espace des 5 km/h, comment dire, une règle, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais
il y a déjà une marge technique. Hein. C'est-à-dire quand on vous condamne pour 1 km/h de trop, c'est 6 km/h de trop, hein, déjà. Eh ben oui.
Le petit excès, ça va.
Le petit excès, c'est 5 km/h. Souvent, tu te retrouves à payer une amende parce que le radar a été mis dans une descente où au lieu de 50, tu passes à 52. Et donc, clairement, c'est fait exprès pour que de toute façon, à cet endroit-là, il soit impossible de passer à 50. J'assimile ça à du racket, effectivement.
Mais on est d'accord qu'il y a quand même un panneau 50 qui te montre que tu n'as pas le droit d'aller à 50.
Très bien, 8000 panneaux. Très souvent, tu ne peux pas. Tu descends et bim, tu te fais choper. J'imagine qu'on va avoir des gens très compétents pour parler de ce sujet dans 2 minutes et ils te diront de quelle façon c'est structuré, et c'est structuré pour que tu te fasses choper et qu'effectivement tu payes l'amende et que ce soit du racket.
Mais dans ces cas-là, c'est-à-dire que pour un 50 km/h, donc il y aura des panneaux 55, quoi, du coup.
Non. Justement, que le panneau serve à t'alerter pour que tu fasses gaffe, ok. Mais si tu te fais choper à 52 au lieu de 50, qu'on te mette pas l'amende. Voilà.
On envoie un petit message, genre Daniel, la prochaine fois, si tu peux faire gaffe.
Exactement.
Cool.
On enlève le point ou pas, Daniel?
Pardon?
On enlève le point quand même ou pas?
Non plus.
Ah, d'accord.
Pas pour le petit excès de vitesse.
On fait plus rien, donc on laisse faire.
Pour le petit excès de vitesse de 5 km/h.
Géométrie variable quand même.
Mais quel rapport? Si tu provoques un accident, évidemment que tu payes. Là, tu vas pas comparer une agression physique à ça. Mais tu vas pas comparer une agression physique à 2 km/h de trop sous un tunnel quand tu descends.
Vous, Daniel, qui est un défenseur de la loi, du respect de la loi,
et l'autorité, on perd l'autorité dans ce pays, t'as dit tout à l'heure.
Non, mais là, vous mélangez tout. Attendez que Patrick Chasseret arrive pour vous donner la leçon.
Pierre Chasseret.
Il va venir quand même pour vous donner la leçon, vous allez comprendre.
La loi, la règle, c'est la règle. À un moment donné, faut mettre une barrière.
Mais toi, t'es carrément contre la voiture. Toi.
Daniel, taisez-vous.
Mais dis donc, voilà. On ne se connaît pas, Daniel. Tu ne sais pas ce que je pense de la voiture. Et après, moi, que certaines amendes servent à remplir les caisses de l'État et que ça soit des tiroirs caisses, franchement, ça ne me choque absolument pas. C'est clair que dans certains cas, c'est exactement ça et qu'on met des panneaux là où on sait qu'on va encaisser des amendes. Et alors, quoi? Je vois pas où est le problème, en fait. Une fois qu'on a dit ça, je vois pas en quoi c'est plus choquant ça qu'autre chose. On récupère de l'argent sur des amendes, ouais.
Oui, alors, ce qui est choquant, c'est comme Daniel le dit, quand vous avez un radar qui est clairement, en bas d'une descente, ou franchement, à 50 km/h, faut avoir vraiment le pied arc-bouté sur le frein.
Bah, tu le sais, alors,
tu conduis ou pas?
Bien sûr.
T'as vraiment une voiture?
Oui. Non, j'ai pas de voiture, bien sûr, mais j'habite à Paris, Daniel, enfin.
Donc t'as pas de voiture.
C'est
un sujet qui t'échappe.
Julien Damon, est-ce que ça, si on commence à supprimer les petits excès de vitesse, c'est la porte ouverte à tout et on supprime tous les excès de vitesse, en fait, du coup.
Ah bah oui.
Ah d'accord.
Ça me semble absolument logique.
Ah d'accord.
Et donc, il ne faut pas le faire. Là, je ne serais pas d'accord avec Daniel.
Penses quoi, Julien?
Ce que je pense, c'est que la loi est dure, mais c'est la loi en l'espèce. Et que Estelle a très bien dit cette affaire. Si tu supprimes ou si tu mets une marge de tolérance plus élevée de 5 km/h, autant dire que la limitation de vitesse
est
à 55.
Donc, on est tous contre Daniel.
Là, en l'espèce, je ne suis pas d'accord avec mon ami Daniel, sur lequel, normalement, nous tombons souvent d'accord lorsqu'il s'agit de ces sujets de tolérance zéro. Je suis pour la tolérance zéro aussi sur les affaires automobiles. D'ailleurs, assez généralement, les petites infractions sont les plus copieuses, ce sont les plus volumineuses, et c'est celles qui, d'ailleurs, rapportent le plus de sous au pouvoir public, les petites amendes. Donc c'est très bien, mais je pense aussi que...
Mais c'est quand même du racket ou pas ?
Mais pas du tout. Pense que c'est pas du tout le terme qu'il faut employer. Si on met à tel ou tel endroit le panneau, c'est d'abord pour que les gens ralentissent à cet endroit. Et là, je vois Daniel qui pourrait sauter en l'air, il ne le fait pas, je suis presque déçu, pour dire que pas du tout, c'est du racket. Chasseret nous donnera peut-être sa leçon. Et ça, là-dessus, il y a un sujet assez général, c'est que je pense que les incivilités conduisent à la délinquance. Et c'est vrai aussi des inconduites. C'est très simple. Un petit
sur n'importe quel autre thème,
il n'y a jamais un grand excès de vitesse qui ne commence pas par un petit excès de vitesse.
Ce sont deux à l'intérieur de toi, quand même.
Pour passer à 150 km/h, il faut d'abord passer à 55 km/h, 60 km/h, etc., etc. Donc je pense que moi, qu'il faut être pas moins ferme avec les petites infractions, mais beaucoup plus ferme encore avec les grandes infractions. Et j'ajoute un truc, je pense que ceci ne doit pas concerner uniquement les voitures. Je sais pas ce qu'en pense Monsieur Chasseret. Je ne supporte pas les trottinettes, les vélos débridés électriques qui vont à 40-50 à l'heure quand les voitures.
Vous avez déjà vu un vélo électrique à la 50 km/h?
Ah oui, là, c'est parisien.
Mais où vivez-vous en bas d'une descente?
Non, à Paris, pas du tout. Vous allez n'importe où dans Paris.
Vous prenez
l'heure, je sens que c'est de la trottinette.
Là-dessus, attends. Trottinettes et vélos électriques qui vont à 40-50 km/h dans Paris, c'est pas tous les vélos. Je dis pas ça, mais il y en a certains qui le font et qui. Moi, je suis avec mon Vélib à 25 km/h, c'est bridé. Les gens me doublent, ils vont deux fois plus vite que moi.
C'est déjà beaucoup pour un Vélib.
Non, Vélib, c'est bridé à 25, donc on peut pas aller plus vite quand on est avec le Vélib électrique. Enfin, passons le truc. Okay. Mais je rappelle que la limitation de vitesse dans Paris est maintenant majoritairement, à 30. Ils vont plus vite. Et j'en ai marre qu'on embête les voitures.
Et arrête, on peut pas aller à plus de 30 dans Paris, voyons.
Non, mais si, sur les
quais, c'est bouché partout.
En vélo et en trottinette, tu peux tout à fait. Donc, il faut
éviter tous les véhicules. À vélo, ils prennent l'essence interdite à l'envers.
Le message que vous relayez, il est aussi relayé sur Direct Studio. Il y a Julien, par exemple, qui nous dit qu'une infraction est une infraction point barre. On fait pas de changement.
C'est moi qui ai envoyé le mail, là.
On a aussi Nicolas qui nous dit on ne fait pas sauter les petites infractions, on joue, on perd, on accepte les règles. Et puis il y a Serge qui lui essaie d'être un petit peu plus philosophe, qui veut adapter en fait la sanction en fonction de l'écart, de l'excès de vitesse. Il nous dit pour les petits excès de vitesse sur Direct Studio, pour les petits excès de vitesse qu'on fait, il faudrait certes garder la sanction pécuniaire, comme ça il y a une sanction. Par contre, peut-être enlever le point, adapter en fait la sanction pour les petits excès de vitesse.
Et ne pas mettre le radar dans une descente exprès pour choper des gens.
Bah oui, mais t'auras plus d'argent avec les caisses de l'État.
Donc t'es d'accord avec moi, c'est du racket.
Mais oui, je suis d'accord que c'est du racket, mais je suis d'accord aussi que si tu enfreins la loi, tu payes.
Ils mettent le radar.
Mais si on fait tout pour que tu enfreignes la loi, c'est ça le problème.
Non, je suis désolée, on fait pas tout pour. Tu n'étais pas obligé d'enfreindre la loi, pardon. Mais en tout cas, alors, il y a des malchanceux.
Vous êtes bien naïf, monsieur Chasseret va vous corriger.
Attendez, ce sont les professionnels de la route qui, eux, évidemment, ont encore plus de chances d'être fâchés par un radar parce qu'ils prennent leur voiture.
Et souvent, ça tape les bourses de ceux que. Alors, en ont bien besoin.
Nous sommes avec
pas
Mohamed,
besoin de se la faire taper, je veux dire.
Qui est chauffeur de taxi en Seine-et-Marne. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe, vous allez bien?
Bien et vous Mohamed?
Salut Mohamed.
Oui, ça va, merci, ça va. Bon, écoutez, moi en tant que taxi professionnel, bien sûr, il faut dénoncer un petit peu cet abus concernant, bien sûr, les retraits abusifs de points. Je prends l'exemple, par exemple, moi l'année dernière, j'ai perdu 5 fois un point. 5 fois un point. Et pour des excès de vitesse, mais vraiment, quand vous retenez 56 pour 51, ça fout quand même les boules.
Oui, mais certes, vous étiez à 56. On vous dit 51, mais vous étiez à 56, Mohamed.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a un jour où je suis tombé, on va dire, j'étais fâché à 7h23 et puis 7h32. Franchement, quand vous prenez tout ça en compte, et moi sincèrement, je suis plutôt du côté de Daniel. Hein. Daniel, je te rejoins. Hein. C'est de l'abus.
Évidemment, moi je comprends les Français.
Ce qui vous gêne le plus, Mohamed, vous, c'est la perte de points ou c'est l'amende?
C'est la perte de points. L'amende, en l'occurrence, on l'assume. Pas de problème.
D'accord.
Mais la perte de points en tant que taxi, et je parle en général. Attention, je parle en général. Hein. Tout ce qui est professionnel, vous voyez, on est obligé de excusez-moi, on est obligé de faire appel à sa femme pour gratter un point, à son frère.
Mais bien sûr.
À un moment donné.
Évidemment.
Voilà. À un moment donné, c'est clair que 12 points, à la limite, monter à 15 points, parce que je veux dire, de faire un stage de récupération, 4 points à l'année, c'est pas assez. C'est pas assez. En plus, nous, en tant que professionnels,
vous roulez plus, bien sûr.
Voilà, en plus, on fait le stage, on paye. D'accord, certes, on paye, c'est minimum 270 euros la formation sur 2 jours. On perd quand même 2 jours de travail. Et à un moment donné, on a trop de pression, sincèrement.
Vous voyez bien que c'est totalement injuste pour quelqu'un comme Mohamed.
Ah,
c'est totalement injuste.
D'accord. Mais est-ce que Mohamed, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait, faire un barème de sanctions plus élevé? Parce que c'est-à-dire que quand effectivement vous faites un excès de vitesse, vous allez à 52 plutôt que 50, vous allez payer la même chose que si vous aviez roulé à 68. Donc ça c'est normal pour vous ou pas?
Bah écoutez, c'est normal dans le sens où si on fait un excès de vitesse, un grand excès de vitesse, ok, on assume, on paye. Maintenant, moi je veux dire, par rapport à l'amende de l'excès de vitesse à 52, 50 ou 53 quand on est flashé, voilà, on paye l'amende. Mais moi ce que je dis, et j'ai réitéré encore nous trouver des solutions, parce que là on est pris à la gorge, on en a ras-le-bol. Là, je parle au nom de tous les chauffeurs professionnels, les taxis, en l'occurrence, les commerciaux. Voilà, essayez de nous trouver une solution, parce que il y a un moment donné, franchement, on dit ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. On en a marre. Sincèrement, on en a marre.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Mohamed, pour ce coup de gueule. Merci d'avoir été avec nous, sur, RMC. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est avec Taïeb, qui nous appelle de Bordeaux et qui est technicien d'installation des radars. Ah. Bonjour, Taïeb.
Oui, bonjour,
Estelle. Ah, lui, il le sait.
Alors, Taïeb, c'est un peu de votre faute, hein, ça, là, tous ces petits excès de vitesse, quoi. C'est pas lui qui encaisse, hein.
C'est un peu de ma faute, oui, et ça, les gens me le font remarquer tous les jours, hein, je pense.
Ah mince.
Avec des klaxons, des insultes.
Ah bon? Ah mince. Ah non, mais c'était une petite vanne mal placée.
Oui, non, mais vous inquiétez pas, je suis habitué. Non, pas habitué.
Voilà. Mais. Taïeb, oui. Vous, justement, on est bien d'accord que quand un radar flash et qu'on reçoit chez nous le petit papier 51, ça veut dire qu'on était à beaucoup plus que ça, on est d'accord?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que moi, quand je reçois mes paramètres juridiques du centre d'infraction de Rennes, quand on rentre les paramètres juridiques, on prend en compte la marge constructeur. C'est-à-dire que quand vous êtes à 80 km/h,
ouais.
Marche constructeur, vous êtes beaucoup moins. Alors, si vous faites flasher par contre à plus de 80, ça veut dire que vous étiez au-dessus. Nous, si vous voulez, dans une zone à 80, on rajoute 6 km/h de plus.
Ça veut dire que par exemple, quand il y a un panneau 80, moi je peux mettre sur mon régulateur de vitesse 85 et je suis sûr de ne pas être flashé.
Non.
Voilà, exactement.
Non. Enfin, faut avoir fait des études en ingénierie pour savoir comment lire un compteur, excusez-moi, ou savoir comment le constructeur a fabriqué son compteur, pardonnez-moi, ça devient très très compliqué.
Non, ça veut dire que ça veut dire que déjà t'as fraudé. C'est-à-dire que si.
Mais si on le sait pas tout ça.
C'est pour ça que Taïeb est là, il nous dit.
Daniel, c'est-à-dire que si moi par exemple, quand je roule, alors je fais beaucoup de route moi, regardez, alors j'ai tous mes points, je sais les radars où ils sont, donc vous allez me dire, c'est facile, mais par exemple sur mon Waze, c'est-à-dire sur mon véhicule, oui. Quand je suis à 80, sur Waze, je suis à 75.
C'est ça, il y a une marge. En fait, quand tu fraudes,
c'est encore pire. Du coup,
voilà. T'es jamais à 81.
En gros, il faut être bon en maths maintenant pour ne pas chercher le radar.
Ce qui veut dire, Taïeb,
parce qu'on ne sait pas.
Mais on vient de le dire.
Ce qui veut dire, Taïeb, que quand on est flashé et qu'on reçoit une amende, qu'on est flashé à 86, donc vitesse retenue 81, en réalité, on est à 90, 91 km/h.
Ah oui, vous êtes un peu plus, bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis.
Donc on le sait finalement.
Donc il n'y a pas de petits excès de vitesse, en fait.
Voilà, exactement. Merci. C'est pour ça que je ne suis pas pour les, retirer les petits excès de vitesse. Parce que moi, je suis rencontré à des situations où je pose des radars, vous savez, à proximité des écoles ou des choses comme ça, ou à un endroit accidentogène, pardon. Et parfois, quand je le pose à côté d'une gerbe de fleurs parce qu'il y a un motard qui s'est tué à cet endroit ou des choses comme ça, ça me... Voilà quoi, je me dis que je fais bien de le poser à cet endroit. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur les positionnements des radars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, c'est pas moi qui décide malheureusement où je dois le poser ou pas.
Voilà. Et voilà. Donc là aussi, il y a dans le discours de Taïeb aussi la partie où parfois on le met à des endroits où on sait très bien que ça va renflouer les caisses.
Exactement, mais pas tous les radars.
Pour renflouer les caisses. On le met aux endroits où les gens commettent des infractions.
Non. Il y a les endroits bienvenus et il y a les endroits où c'est fait exprès pour choper des gens.
C'est fait pour que les gens ralentissent.
Alors, merci.
Pour choper des gens, c'est pas pareil.
On va remercier Taïeb d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué toutes ces petites subtilités concernant les radars. Et Daniel va être content parce que nous sommes avec Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Bonjour Estelle.
Bon, évidemment Pierre, vous êtes pour enlever les petits excès de vitesse, j'imagine.
Bon, c'est une évidence que sanctionner des tout petits excès de vitesse, ça sert strictement à rien si ce n'est à embêter la vie des 40 millions d'automobilistes qui potentiellement peuvent de temps à autre avoir une amende qu'ils ne méritent pas puisque c'est un excès involontaire.
Ils la méritent puisqu'ils ont enfreint la loi.
Estelle,
laisse-le parler.
Vraiment, là c'est très important parce que Taïeb s'est trompé. Donc je vais.
Ça m'étonnerait, c'est son métier.
Je peux vous garantir, c'est aussi le mien. Donc Estelle, attention. Lorsque Taïeb pose son radar,
oui.
Le radar est calibré avec une marge qui est obligatoire applicable par le constructeur du radar de manière à pallier la carence de la mesure, c'est-à-dire que potentiellement la mesure peut être
défectueuse,
inexacte. Ça, c'est très important. Deuxième point, donc c'est ce qu'on appelle la marge de pondération,
c'est
cette marge technique ou quand on vous dit on vous a pris à 86, vitesse retenue 81, attention, si la mesure n'était pas exacte, vous pouvez très bien rouler en vitesse réelle à 83, 84. Hein. Attention.
C'est oui, mais
complètement fou de penser qu'en se mettant 5 au-dessus, on va passer systématiquement à travers les radars.
Ah, c'est, bah c'est bien de me le dire, ça, très bien.
Bon. C'est une marche technique. D'accord. Marche technique, si le radar est décalibré, eh bien vous vous faites sanctionner. Donc il faut arrêter de penser ça. Deuxième point, ensuite, Taïeb a confondu la vitesse qui est affichée au compteur de certaines voitures, où effectivement, quelquefois, la vitesse qui est affichée à votre compteur n'est pas exacte par rapport à la réalité, mais dans d'autres véhicules, si, ça peut être parfaitement exact. Il ne faut pas confondre la vitesse réelle et la vitesse de votre compteur. Mais d'accord, en vitesse réelle, moi je parle à tous ceux qui nous écoutent en vitesse réelle, ne faites surtout pas ce que dit Taïeb en pensant que vous avez 6 à 10 km heure de marge. C'est faux. Vous allez vous prendre tous les radars les uns après les autres.
Hein. Ah oui, voilà. Bon, ça c'est très bien que vous nous
disiez. C'est bien d'écouter un spécialiste quand même.
Chasserait. Oui, tout à fait.
Ne le coupez pas, laissez-le parler. Mais
effectivement, ça n'a rien à voir avec le sujet. Pierre, quand même, là on se demande s'il faut arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse. Mais enfin, encore une fois, même si c'est un petit excès de vitesse, et moi aussi, hein, j'ai déjà eu des amendes et j'étais pas contente pour 51 ou 52 km/h. Mais enfin, quelque part, ça veut dire que j'ai quand même enfreint la loi et c'est quelque part ces panneaux, ces limites de vitesse, c'est pas là pour embêter les gens. C'est là parce que c'est nécessaire.
Je vous emmène en week-end à Londres. Et ensuite, on va aller se promener un peu en Angleterre.
Oui.
Et en Angleterre, vous allez voir que c'est le numéro 1 européen de la sécurité routière et que là-bas, on applique une marge technique. La marge comme en France, la marge de pondération du matériel, plus une marge de tolérance, parce que les Britanniques ont dit ça suffit pas, on va flasher des petits excès de vitesse involontaires, ce serait très idiot et ça rendrait le système inacceptable car intolérant.
D'accord.
Voilà, eh bien, c'est le principe même qui vient contester tous ceux qui pensent que si on met une petite marge, on va inciter les gens à rouler plus vite. Non, on les incite pas à rouler plus vite. Ils rouleront pas plus vite puisque derrière, ça sera sanctionnable. Donc, ils se feront prendre. Non, le principe, c'est de faire en sorte, comme elle explique très justement Daniel Riolo, que quand on est en bas de la descente, le petit excès involontaire, parce qu'on a oublié de piler.
Oui, mais c'est pas tous les radars, Pierre.
Non, mais
beaucoup.
Il y en a beaucoup quand même qui sont situés dans des endroits où véritablement on a l'impression qu'ils se sont cassés la tête.
C'est des
pour
pièges,
se demander
des pièges.
Où est-ce que ça allait ramasser le plus.
J'appelle ça des pièges.
C'est Daniel Riolo qu'il faut emmener en week-end. Estelle, ça a l'air. Comme vous êtes d'accord.
Laissez parler Pierre, il vous éclaire au moins.
Juste, Pierre Chasseret, on a entendu votre point de vue, mais on a également avec nous Pierre Lagache, qui est membre du bureau de la Ligue contre la violence routière et qui, bien sûr, ne sera pas d'accord avec Pierre Chasseret, j'imagine. Bonjour Pierre Lagache.
Bonjour.
J'imagine que vous bondissez sur votre siège en entendant ce qu'ils disent sur ce plateau.
Oh non, mais moi je suis très calme, simplement je pense que par rapport au sujet qui est posé, la question c'est de considérer si les petits excès de vitesse génèrent des accidents supplémentaires, voire même des accidents graves ou pas. C'est ça la question.
Bien sûr.
Et la réponse, on la connaît, puisqu'il y a une étude de l'IFSTAR qui a été menée en 2014, qui a justement analysé l'impact des petits excès de vitesse en matière de résultats de sécurité routière. Et il n'y a pas photo, la grande majorité des accidents, y compris les accidents graves, sont liés à des petits excès de vitesse. Alors, c'est contre-intuitif, mais pourquoi on arrive à ce résultat? Parce que simplement, les grands excès de vitesse sont beaucoup moins nombreux, et c'est tout à fait normal. Donc, il y a toujours un lien, si vous voulez, entre le nombre d'infractions, donc le dépassement de la vitesse autorisée, et le nombre d'accidents générés. Et je rappelle que, notamment en milieu urbain, quelques kilomètres heure en plus, même 5 kilomètres heure en plus, ça peut tout changer par rapport aux conséquences de l'accident. Je pense notamment entre le choc d'un véhicule et d'un piéton ou d'un vélo. Voilà, donc on a intuitivement, si vous voulez, l'idée qu'un petit excès de vitesse n'est pas important en matière de sécurité routière. La réalité, elle est tout autre.
Pierre Chasseret, il y a Pierre Lagache qui vient de développer ses arguments et il est assez convaincant parce que finalement, je veux dire, ça fait quoi pour un automobiliste de rouler à 50 ou à 55? Je veux dire, c'est quand même pareil. On peut se permettre d'arriver 5 minutes en retard à un rendez-vous. Il suffirait
c'est pas
que,
ça, mais c'est
que
pas
tout
la
monde
question.
Respecte la loi, quoi.
Ça n'est pas la question. Si, il a insisté deux fois. C'est parfois de l'ordre de l'involontaire.
Oui, non, mais de l'ordre de l'involontaire, tu fais attention à ce que tu fais. Enfin,
Laissons parler Pierre, il va vous expliquer.
C'est ça, hein, un petit excès de vitesse est involontaire. Au-dessus, ça devient un délit. C'est pour ça qu'on parle de grand excès de vitesse.
Et c'est pour ça que c'est que un point et que l'amende est beaucoup moins forte que quand tu fais un gros excès de vitesse de plus de 20 km/h. Pierre Chasseret, voilà, les radars, ils sont pas là juste pour prendre notre argent, j'imagine. Il y a aussi quand même un problème de sécurité routière. Et c'est vrai que si tout le monde va un peu plus vite, eh ben, ça générera peut-être plus d'accidents quand même.
Mais Estelle, c'est là où j'aime pas un petit peu cette attitude des opposants à la voiture qui viennent aujourd'hui triturer le discours pour faire croire que ça va inciter les gens à rouler plus vite. C'est pas vrai. C'est juste qu'on arrêtera d'envoyer une sanction qui ne sert à rien. Vous êtes déjà passé. Au moment où vous recevez votre PV chez vous, 3 semaines après, le danger, il est passé. Hein. C'était 3 semaines avant. Donc, il faut arrêter. Et il faudrait écouter la Cour.
Oui, enfin, si vous faites un vol ou quoi, vous passez devant le tribunal 3 mois après. C'est pas pour ça que vous n'avez pas volé, vous voyez.
Quand on vous dit, quand vous passez dans une zone à 30 km/h, vous passez à 33, j'ai pas l'impression que ça fait de vous un fou furieux de la route. Et pourtant, ces 3 km/h vont vous coûter 135 € et le point sur le permis de conduire qui va avec.
Oui, mais peut-être que la prochaine fois, vous ferez plus attention.
Mais non, Estelle, regardez ce qui se passe à l'échelle européenne. C'est intéressant de voir dans les autres pays du monde et de regarder ce qui se passe. Dans tous les pays européens, on applique soit des marges de tolérance, soit des sanctions différentes. Nous, en France, qu'est-ce qu'on a ? On a la même sanction pour un excès de 1 km/h au-dessus en vitesse retenue et 19 km/h au-dessus. C'est quand même pas la même chose.
Non mais bon, écoutez, je suis d'accord et on va laisser nos internautes trancher puisque personne n'est d'accord sur ce plateau. Merci Pierre Chasseret et merci à Pierre Lagage d'avoir été avec nous. Alors on vous a posé la question, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi, faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse? Est-ce qu'une majorité se détache, Martin?
Oui, une large majorité, 81% de oui, faut arrêter de sanctionner ces petits excès de vitesse.
Encore une fois, je suis totalement en phase avec la France.
Oh bah ça c'est sûr, là mais là t'es d'un démago, évidemment. C'est sûr que ça allait être oui.
Ça vous arrange pas.
Ça vous arrange pas. Tiens,
je constate que la vérité, vous avez du mal avec la vérité.
On continue toute la journée
sans
et ça c'est la vérité jusqu'à 20h de vous faire gagner votre révision auto sur RMC.
Ça tombe toutes les 20 minutes sur RMC. Un bon d'achat de 150 € pour faire réviser votre voiture. Pour tenter de remporter ce bon d'achat de 150 €, vous envoyez le mot auto, A-U-T-O, par SMS au 732-16. Auto au 732-16.
Allez, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec notamment la Russie qui coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Et puis on parlera également de l'influenceur Benjamin Ledig qui a été condamné. Vous savez, c'est lui qui avait fait un twerk provocateur dans une église. À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. Et on va tout de suite passer aux infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables de Martin Bourdin. Et on va commencer, Martin, tout de suite avec la condamnation du jour.
Pour filmer dans une église, il faut l'autorisation du responsable du culte. Décision du tribunal judiciaire de Paris qui a donc condamné l'influenceur Benjamin Ledig pour s'être filmé avec un ami en train de danser en crop top, donc avec le ventre apparent, en train de twerker, de même mimer une fellation dans une église. Le curé de la paroisse avait porté l'affaire en justice. Benjamin Ledig a donc été condamné, pas pour sa danse ou pour la tenue, pas pour le caractère provocateur de sa vidéo, mais parce qu'il filmait sans autorisation. Il doit verser au curé 2 500 € de réparation au titre du préjudice moral et 2 000 € de frais de justice.
Daniel, est-ce que vous êtes heureux de la condamnation de cet influenceur?
Bon, heureux, je vais pas ouvrir le champagne parce qu'il est condamné. Déjà, je sais même pas pourquoi on l'appelle influenceur. Enfin, il influence qui?
Bah, écoutez, ce matin, je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc, j'ai demandé un petit peu à toute la rédac. J'ai dit, on l'appelle comment? On m'a dit influenceur. Je ne sais pas ce qu'il influence. Il doit avoir beaucoup d'abonnés.
L'inconséquent, je vais rien dire parce que après, il pourrait trouver ça intelligent d'attaquer. Donc, je sais même pas quoi dire d'autre. Bon, enfin, bon, bref, peu importe.
90 000 abonnés.
Ouais, c'est pas mal.
Donc il a été attaqué parce qu'il n'a pas respecté une règle. Il est condamné. Tant pis pour lui. Très franchement.
Mais il le fait pour
les,
ça, non?
Les aventures de ce petit idiot n'intéressent personne. Quoi. C'est tellement stupide ce qu'il fait. En plus, il fait ça pour être condamné. Il fait ça.
Peut-être pas pour être condamné, pour être
condamné. Si. Dans sa démarche, il y a le fait d'aller sur les plateaux de télé pour pleurer et dire j'ai été menacé, la terre entière me menace. Parce que c'est le rôle de ce genre de gars qu'on appelle influenceur, c'est d'être dans le feu de l'actualité, d'être menacé pour pouvoir ensuite se plaindre. Enfin bon, vous l'avez déjà entendu parler, ce type-là?
Non.
C'est la vacuité incarnée, quoi. Il a un courant d'air entre les oreilles.
Ouais, peut-être que ça l'empêchera de recommencer pour le coup. Julien Damien.
Mais non, il se sert de ça. Il va se servir de ça.
Enfin, il va devoir les payer ces 4 500 euros.
Ouais. Oui, qu'il les paye. Et peut-être il va même faire une cagnotte litchi. Oh, et il y aura des gens assez idiots pour lui donner de l'argent.
Valérie Pécresse de l'aider. Mais plus sérieusement, bien fait pour lui. Voilà, bien fait pour lui. Mais le vrai sujet, c'est celui que Daniel met en avant. On ne devrait plus le faire faire ce qu'il veut.
Et il a été invité sur des plateaux de télé parce qu'il kiffe ça.
Il est passé, oui, chez Baba. Il a fait tout un sketch, et puis on le fait un sketch, etc. Donc il ne faut plus l'inviter. D'ailleurs, je précise une chose, mais il le sait, notre ami influenceur, donc, puisque c'est le mot, même s'il est étrange, c'est que c'est dangereux ce qu'il fait. Il s'amuse à, je ne sais pas trop quoi, mettre de la confiture sur le Coran, enfin, il fait de la provocation. Tous azimuts. Un jour, il lui arrive à des problèmes et il n'est pas nécessaire qu'il fasse ses bêtises.
Mais il a déjà
franchement provoqué. Provoqué en prenant le Coran pour nettoyer,
mais pénalement, il est bête à manger du foin, notre ami, c'est
d'accord,
sûr.
D'accord, mais enfin, vous pouvez pas dire qu'il cherche,
il cherche à ce qu'on parle de lui, il cherche à faire n'importe quoi.
Il cherche à attirer l'attention, il ne fait que ça pour ça. Il n'y a pas de démarche idéologique, il n'y a rien, c'est juste pour attirer l'attention. Il veut provoquer.
Je pense, si j'étais ses parents, je dirais que ce qu'il mérite, c'est une bonne fessée, au-delà des amants.
Exactement. On a plus le droit en France, vous savez ça.
Sauf que lui, c'est un adulte, donc les adultes en font ce qu'ils veulent.
C'est encore.
En plus, je pense que même la fessée, voilà. Il la cherche.
Ah oui. Arrêtez.
Et il la mettrait sur Omeglette.
Non, mais c'est plutôt intéressant de l'avoir. Il a une amende, pas parce qu'il était dénudé. Il a une amende parce qu'il a filmé dans un lieu où c'était interdit.
Non, parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation.
Voilà, il aurait fait ça à la FNAC, ça aurait été pareil, en fait. C'est pour ça que c'est plutôt.
Ça aurait moins de portée, je pense.
Bah, ça aurait moins de portée, mais l'amende aurait pu être.
Mais sa vie repose sur le buzz.
Bon, le buzz. Alors, on en parle.
C'est son gagne-pain. Même nous, là, on est en train de lui donner des bouts de pain. C'est comme si on jette du pain au canard. Et bon, on jette du pain à Benjamin Ledigue.
Si vous vous taisiez, je pourrais passer au chaud.
Vous me demandez de réagir comme vous voulez que je me taise.
Je sais plus, taisez-vous. Le manque du jour.
Le télétravail n'a pas que des avantages. Le télétravail nuit à la créativité. C'est la conclusion d'une étude menée dans plusieurs pays auprès de 1500 ingénieurs. Eh bien, ces interactions virtuelles produisent 15% d'idées en moins par rapport aux échanges en personne. Pour les chercheurs, la créativité est inhibée par les appels vidéo. Selon eux, en fait, on est trop concentré sur l'écran quand on est en visioconférence et du coup, on crée moins. On est plus créatif quand on est moins concentré, disent finalement les auteurs de cette étude.
Ou alors, on a la caméra qui est fermée, on n'est pas dans la pièce. C'est aussi peut-être pour ça qu'on crée moins.
Non, mais on crée moins parce qu'il n'y a plus de petits cafés, c'est tout. C'est les interactions humaines des couloirs, c'est tout l'informel. Mais on n'a pas besoin d'études, ça fait 2 ans qu'on le sait et que toutes les boîtes disent qu'il ne faut pas de plus de 2 à 3 jours de télétravail. Après, on nuit globalement à la santé de l'entreprise, à l'esprit d'équipe, à tout ce qui fait le sel d'une boîte. Donc, 2 à 3 jours max, après, ça devient nuisible.
Enfin, vous avez quand même des boîtes qui proposent du télétravail total aujourd'hui.
Mais il y en a certaines qui en reviennent. Google avait dit on passe à 100% télétravail, je veux plus voir un humain dans mes locaux. Et puis maintenant, ils disent non, vous revenez tous parce qu'en fait, ça va pas. Il n'y a plus personne qui crée et puis on ne se parle plus.
Julien Damon, est-ce qu'on va en revenir du télétravail? Parce qu'à un moment, ça a été la panacée, effectivement, pendant le Covid. Et on a l'impression que ça commence quand même à rétrécir un peu. Vous voyez ce que je veux dire?
Depuis les années 70, on explique que ça va être la grande transformation du monde du travail. Il se trouve que la période Covid nous a montré que ça pouvait être le cas. Mais il se trouve aussi que les jeunes, désormais, lorsqu'ils envoient leur CV, mais dans des métiers singuliers, ceux qui sont télétravaillables, demandent combien de jours de télétravail ils peuvent avoir. C'est quand même une aspiration. Le gros sujet, c'est celui de l'équilibre. Hein. L'équilibre pour chacun, parce que si on n'est que à télétravailler, surtout si on arrive dans une entreprise, on n'a aucune participation au collectif. Et ensuite, ce collectif s'effondre si tout le monde est dans tous les coins. Donc, le sujet, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 jours, mais c'est quel équilibre entre le temps intelligent qu'on peut passer chez soi à faire des dossiers, parfois faire des visioconférences, ok, et le temps nécessaire à passer dans des réunions utiles, parce qu'elles ne sont pas toutes, lorsqu'on est au bureau. Donc c'est une question bien simple qui n'a pas de réponse évidente en termes de pourcentage, mais c'est quel bon équilibre.
En tout cas, l'étude dit quand même qu'on est moins créatif lorsqu'on télétravaille. Vous pourriez télétravailler, vous, Daniel? C'est compliqué quand même.
Non, parce qu'il faut être. Enfin, on l'a fait pendant le confinement.
Ça vous a plu?
Ça s'assimilait à du télétravail parce qu'on bossait à distance. Je peux pas vraiment répondre à ça parce que déjà c'était génial de pouvoir continuer à bosser puisque personne pouvait se déplacer. Donc je l'ai pris plutôt comme quelque chose de très positif à ce moment-là. Après, faire l'émission à distance une fois par semaine,
le vendredi.
Dépend de circonstances, je ne sais pas.
Les gens préfèrent travailler le lundi et le vendredi.
Ah oui,
je ne sais pas si vous avez. Hein.
Mais sinon, non, je n'ai pas en avis. C'est plus une question BFM Business, ça. Je laisse ça à l'or.
C'est pour ça que j'ai démarré.
Exactement. Je m'incline, l'or, en expertise sur ce genre de sujet.
Et j'aurai une autre info BFM Business là, tout de suite maintenant avec la coupure du jour.
La Russie a coupé les robinets de gaz à destination de la Pologne et de la Bulgarie. Décision de Moscou car ces deux pays n'ont pas payé leurs factures en roubles comme le demande la Russie. Oui. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que Vladimir Poutine prend une telle décision. La Pologne explique qu'elle avait anticipé que ses stocks de gaz sont pleins aux trois quarts. L'Union européenne de son côté dénonce un chantage et promet d'être solidaire de ces deux pays.
Laure Clausier, est-ce qu'il faut qu'on commence à se préparer, je veux dire, à une coupure de gaz aussi dans d'autres pays et notamment la France?
Oui, oui, parce que c'est de la menace très sérieuse. Il fait ça, il coupe ces deux pays, il coupe la Pologne parce que c'est son ennemi et la Bulgarie parce que c'est pas son ennemi mais c'est le plus faible. C'est facile, la Bulgarie est extrêmement dépendante du gaz russe, donc il fait ça pour nous menacer, surtout menacer l'Allemagne et dire vous voyez ce que je peux faire. Il faut qu'on se prépare à sortir du gaz. On peut pas laisser Vladimir Poutine être le maître total des horloges. Donc il faut être très clair. Je vous annonce que à l'automne, il y aura des coupures, pas forcément directement chez les particuliers, mais vous aurez lundi, mardi, mercredi, c'est l'aluminium qui utilisera le gaz, et puis à la fin de la semaine, ça sera une autre industrie. On fera tourner ce qu'on peut avoir de gaz. On a en France des stocks qui sont plutôt importants, mais qui ne sont absolument pas pleins aujourd'hui. Donc oui, il y aura des conséquences.
Julien Damon, est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron prenne les devants en fait et ne se fasse pas dicter le tempo par Vladimir Poutine justement? Alors quand je dis Emmanuel Macron, c'est l'Europe en fait, parce qu'on peut pas décider nous tout seuls.
Ma réponse sera oui s'il peut le faire. Enfin, la véritable experte, là, c'est Laure en la matière. Je la regardais à la télévision hier soir, je lui disais, elle connaît tous les gazoducs du monde, là, elle est capable de nous dire à quel endroit. Ah oui, c'est la reine des tuyaux.
Mais Laure, moi, j'ai une question.
Mais plus sérieusement là-dessus, moi, je trouve que l'Europe est incarnée par la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, a une parole forte en la matière, en expliquant et cherchant à rassurer. Est-ce que véritablement on a les moyens de pouvoir se rassurer? Je ne sais pas, mais globalement, je trouve qu'on est assez fort avec des arguments assez élevés qu'il faut rappeler que Laure.
Pas grand-chose pour l'instant.
Hein. Si, il y a un truc très simple, c'est qu'il peut couper les tuyaux, mais il se coupe des devises qui vont lui arriver. Donc, l'effet pervers pour lui, c'est que à terme, il peut faire le malin.
Parce que nous, ce qu'on ne sait pas, c'est 10%. Nous, ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact qu'ont nos sanctions là-bas, puisqu'on n'est pas au courant, puisque le pays est coupé du monde.
Le pays, 15% d'inflation, 10% de.
Voilà. Non. Quand je disais, on ne sait pas. C'est pas ça que je voulais réellement dire. C'est on ne mesure pas l'impact puisqu'on n'a pas de retour sur la population qui n'a pas le droit de s'exprimer. Mais néanmoins, eux morfle aussi. Si nous, à terme, on morfle parce qu'ils nous augmentent les prix, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, même si on est un peu moins dépendant en France. Mais dans cet échange de sanctions, la vraie question, c'est que nous, on va afficher nos problèmes, alors que eux vont les mettre sous le tapis et la population ne pourra pas s'exprimer, mais eux vont morfler plus que nous.
À quel point ça intéresse Vladimir Poutine de détruire son économie? C'est-à-dire que les sanctions fonctionnent. Elles détruisent l'économie russe. Mais est-ce que ça intéresse Vladimir Poutine? Est-ce que ça a un impact sur sa guerre? Pas forcément. Après, sur le gaz, s'il coupe complètement du jour au lendemain, il ferme le robinet, il détruit toute son infrastructure. Le gaz, t'es obligé de l'envoyer dans les tuyaux en permanence, sinon, tes tuyaux, ils s'effondrent, il y a du sable et tu peux plus rien faire. Donc, il peut pas non plus détruire l'avenir total de la Russie sur les 50 prochaines années. Donc il peut un peu nous menacer, mais il a aussi beaucoup.
Moi je vois pas en quoi il est finalement dans cette guerre qui pour l'instant n'est pas armée mais économique, en quoi il peut être gagnant par rapport à nous.
Il peut menacer, mais
ce que tu décris, c'est que finalement, à un moment, il ne peut pas aller au bout de son raisonnement.
Mais ça aura quand même des répercussions sur notre économie. Laure le dit. Déjà, ça a des répercussions.
Oui, mais ça en a beaucoup plus sur la sienne. Il ne peut pas hypothéquer l'avenir total de son pays.
Il détruit le pays, il détruit aussi l'Ukraine désormais et l'économie de l'Ukraine, puisqu'il bombarde désormais les gares.
Jusqu'à ce que son pays et sa population ne se plaint pas ou qu'on n'entend pas les plaintes de sa population, il peut continuer, il peut les laisser crever de faim, en gros.
Mais d'accord, mais là, il commence à y avoir des répercussions. Alors, on parle de l'huile de tournesol qui va être remplacée dans les magasins, mais je ne sais pas si vous avez. Là, aujourd'hui, vous essayez de commander une voiture, vous en avez pour un an. Si vous essayez de commander des tuyaux d'acier, c'est une catastrophe. Vous ne pouvez plus commander de portes en aluminium.
Il va peut-être falloir qu'on se plaigne moins et qu'on s'adapte parce que eux, là-bas, vont avoir. Les Russes vont beaucoup plus souffrir que nous.
Je pense que les Français à qui vous dites ta voiture, tu l'attends depuis un an, ce sera deux ans. Et puis ta nouvelle porte, parce que en fait, ta porte, elle est cassée et ta porte, elle n'arrivera pas avant un an. Et surtout, elle coûtait 200 euros, maintenant elle va coûter 600. Il y a aussi ça comme répercussion. Et on ne nous en parle jamais. Est-ce qu'à un moment.
Ah non, mais moi je suis pour que le politique soit enfin honnête et transparent, que Macron nous dise voilà le plan, voilà ce que nous allons faire la fin de l'année. Il y a deux scénarios, voilà où on va. Et qu'on soit honnête. Parce que là, on dit non, ça va aller. Mais ça ne va pas du tout aller, en fait.
Mais il n'y a pas que Macron qui est concerné. Enfin, c'est quand même un sujet extrêmement européen en la matière.
Bien sûr, c'est surtout un sujet allemand.
Oui, mais là, pour le coup, je pense que les Français auraient quand même envie qu'on leur explique. c'est comme, encore une fois, la pénurie d'huile de tournesol. Dans cette émission, on a eu que des gens qui nous disaient, mais non, mais vous inquiétez pas, il y en aura toujours dans les rayons, il n'y a aucun souci. Et les restaurateurs qui te disent, bah non, on n'en a plus, quoi. Donc, à un moment, il faut aussi dire la vérité, quoi.
Et donc, à terme, c'est quoi ce que tu es en train de dire? C'est bah, que la question qui sera posée. Oui, d'accord, mais au-delà de la vérité, la question qui sera posée, c'est est-ce que les Français sont capables d'accepter ces sacrifices-là?
Bah oui.
Pour une guerre qui, a priori, n'est pas la nôtre, et est-ce qu'on dit, bon, ok, les Russes, bouffez toute l'Ukraine, on n'en a rien à cirer. La question derrière la vérité que tu évoquais, c'est ça. C'est demain, imaginons un référendum et les Français, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue de sanctionner pour aider l'Ukraine ou on abandonne?
Ah, la question. Imagine la question du référendum qui serait d'un côté. La liberté pour les Ukrainiens ou l'huile de tournesol pour les Français.
Mais je fais exprès de schématiser, mais derrière, c'est ce qui va se poser comme question.
Moi, ce que j'observe, c'est que la guerre, en fait, a plusieurs formes par nature. Il y a la guerre militaire, il y a la guerre économique, la guerre d'infrastructure, puis la guerre psychologique. C'est quand même ça qui est absolument fondamental. Quel impact on a sur la psychologie des peuples.
Et lui, sur notre faiblesse psychologique et notre capacité à avoir besoin de notre chauffage et d'huile d'olive. Je suis pas assez sûr.
Et d'huile,
pas
l'huile d'olive.
L'huile d'olive, ça
se dit. Il se dit, Vladimir Poutine.
Ça vient pas de là-bas. Ils ont pas d'olivier.
Ils voudront garder leur chauffage. Ils voudront de l'essence pas chère. Ils misent sur ça, sur notre attachement à notre confort, parce que nous avons des choses à perdre.
C'est pour ça qu'il y a une guerre de l'information aussi, qui est menée de leur part.
L'annulation du jour.
Les 90 suffrages exprimés dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle dans la commune de Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques, annulé par le Conseil constitutionnel. La faute à un certain Jean Lassalle. Le candidat s'était mis en scène dans le bureau de vote pour dire qu'il avait décidé de s'abstenir. C'est interdit par le code électoral. Des poursuites pénales pourraient aussi être engagées contre Jean Lassalle. Jean Lassalle qui demande à lever les sanctions contre sa commune, contre les électeurs de sa commune, mais d'engager des poursuites contre sa personne. Je veux bien répondre de mon acte et payer les éventuelles conséquences, peine de prison, retrait de mes droits civiques ou amende. Voilà ce qu'a indiqué le candidat de Résistance.
Julien Damon, c'est ridicule cette mise en scène.
Alors, la mise en scène en soi, je suis allé la regarder. Il est un peu ridicule, comme il sait souvent l'être.
Il est toujours ridicule.
Je trouve que sa position là tient debout dans ce qu'il a évoqué. Je vois pas pourquoi l'ensemble de ses contemporains, amis locaux là, sont punis pour la bêtise qu'il a faite.
Le Conseil constitutionnel estime que ça porte atteinte à l'élection. Il pourrait influencer des gens en fait par sa mise en scène.
Au moment où il a fait ça.
Il y avait personne dans le bureau de vote.
C'est ce que j'ai lu dans la décision. Alors, et en plus de ça, oui, c'est son fils qui filme, et c'est pas des journalistes, etc., etc. Je pense que la position de Monsieur Lassalle, alors il fait ce qu'il veut, c'est bête ou non, est assez justifiée là, qui est de dire, écoutez, traînez-moi devant les tribunaux si j'ai fait une bêtise. Ça lui donnera de la pub. En plus, il sera content.
Oui.
Enfin, quand même, les votes des habitants de cette municipalité n'ont certainement pas été influencés, pourraient être décomptés. Bon, scoop, ça ne changera rien à l'élection présidentielle.
Oui, heureusement, c'est pas Anne Hidalgo qui a fait ça, parce que ça aurait été plus compliqué. Oui. Elle est un peu plus responsable.
Oui, mais sauf que c'est que dans un bureau de vote. Ok, ça serait pas l'élection.
Moi, je veux plus qu'on parle de Jean Lassalle. Pourquoi? Parce que ça me fait du mal. J'en peux plus.
Même quand il chante.
Non, j'en peux plus. De penser qu'il est drôle, sympathique.
Oh là là, mais c'est pareil. J'en peux plus ce type-là.
Alors qu'il est juste violent, insupportable. Portable, oh là qui fait là. Du mal à la démocratie et à toute notre offre politique. Ah oui, moi, je veux plus parler de lui. Ah oui. Mais oui, parce que ça marche.
Mais ce qui est étonnant, nous n'en parlerons plus.
Merci.
Moi, je suis 100% d'accord avec Laure. Ce personnage est devenu insupportable et je comprends pas que les gens puissent le trouver sympathique.
Écoutez, il a quand même eu ses 500 parrainages. Ça, on peut pas lui enlever.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la plus grosse bêtise qu'il ait faite, je trouve. Oui. Alors, pourquoi on en reparle?
On n'en parle plus. Voilà.
On a qu'à le mettre avec l'autre influenceur et vont trouver des choses à faire.
Le sujet est dans un instant.
Ils vont faire des vidéos.
On saura lequel de vous trois est le plus intelligent, le plus cultivé. Voilà. Nous verrons ça grâce au quiz.
À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h50, vous êtes sur RMC et c'est l'heure du quiz dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi.
Le quiz d'Estelle.
Et on joue aujourd'hui pour un très très beau cadeau. Martin, on part en vacances grâce à RMC.
On part en vacances. 4 personnes pourront partir en vacances. 2 adultes, 2 enfants, dans un centre VVF, le tout en pension complète. Pendant une semaine.
Mais formidable. Et c'est soit Vanessa, soit Julien qui va avoir le plaisir de pouvoir partir à 4, justement, en vacances. Bonjour Vanessa, bonjour Julien.
Bonjour. Tout le monde.
Je vais commencer avec vous. Vanessa, vous nous appelez d'où?
De Nantes.
Et très bien. Vous faites quoi dans la vie, Vanessa?
Je suis commerçante, je tiens un institut de beauté.
Ah, très bien. Oh là 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 là, vous faites tout, c'est-à-dire les ongles, tout ça, épilation, tout
voilà,
ça.
Voilà, l'épilation, massage.
Oh là là,
sympathique.
J'en rêve, mais Nantes, malheureusement, c'est un peu loin. Vanessa, vous choisissez qui pour jouer avec vous?
Laure.
Laure Clausy, c'est un très bon choix. Vanessa, une équipe féminine à 100%. Face à vous, il y a Julien, et ce sera une équipe masculine à 100% parce que je ne peux pas jouer. Ça va, Julien ?
Très bien, et vous ?
Bah, écoutez, super. Julien, vous nous appelez d'où ?
J'appelle de Sérignan du Comtat dans le Vaucluse.
Ah là là, il doit faire beau, non ?
Il fait très beau, très chaud.
J'en étais sûr. Vous faites quoi dans la vie, Julien ?
Alors, je suis gérant d'une chaîne de food truck spécialisée dans le sushi.
Ah, très bien. Ah, je ne savais pas qu'il y a des food truck sushi.
Et oui, dans le Vaucluse et dans le Gard, oui.
Ça marche bien ?
Oui, très bien. Je fais ça depuis 10 ans, donc oui, je connais un peu mon affaire.
Ah ben je vois ça, Julien, et vous avez quand même envie, parce que ça marche bien justement, de vous détendre un peu et de partir en vacances, et vous allez pouvoir avoir un membre de la bande pour vous aider. Qui choisissez-vous ?
Je choisis Daniel.
Alors, pour la détente, c'est moyen, Daniel, mais en revanche, pour les réponses, c'est plutôt pas mal. C'est un très bon choix, Julien. Vanessa et Julien, cette première question, elle est juste pour vous. Attention, quelle marque de bonbons voit l'un de ses produits phares fêter ses 100 ans cette année ? Alors, c'est une marque de bonbons. Allez, allez-y, Julien. Haribo, bien sûr.
Bien, Julien. Ça, j'allais vous dire, pense à ta région, parce que c'est pas très loin, Haribo.
Mais oui, c'est l'ourson Haribo qui fête ses 100 ans. Et oui, 170 millions d'oursons par jour sont fabriqués. 1-0.
Grand spécialiste en bonbons.
Pour Julien. Oui, moi aussi, j'adore.
J'adore ça.
Tout le monde peut jouer désormais. Question musique. Quel célèbre musicien britannique va avoir droit à son biopic qui sortira au cinéma le 22 juin ?
Musicien ?
Bah, c'est pas un musicien, c'est un chanteur en fait.
McCartney ?
Non, pas du tout, plus jeune.
Plus jeune ?
Plus jeune, ouais. Il chantait avec un groupe au départ.
Avec Oasis ?
Non, avec un groupe qui s'appelait Wham.
Ah, George Michael.
George Michael, bonne réponse.
Merde, c'est super. De l'indice.
Daniel Riolo. Un film documentaire qui s'appellera Freedom Uncut. C'est question de culture générale. C'est encore de la musique. Quelle célèbre chanteuse a pour vrai nom Yolanda Gigliotti ?
Dalida ?
Ben oui, oh, Dalida ! Non, j'adore.
Merci Daniel.
Ah mais Daniel, mais il est aussi calé en musique qu'en sport.
Ouais, mais c'est un bref de génération.
Julien, va préparer ta valise. Hein.
Ah ouais, tu fais le boulot.
Attends,
on est tranquille, hein, c'est bon.
Avec Laure,
on risque rien.
Pour Julien. Bon, je vais pas mettre la question sport pour l'instant parce que ça ferait.
Non, mais c'est vrai.
Daniel.
Les questions pour.
Ah non, comme ça on boucle le quiz tout de suite et c'est réglé.
Taisez-vous.
Non,
attention. Question. Je vais faire la question charade, comme ça.
Oui,
pour donner l'occasion à la valise à revenir.
C'est bien ça.
C'est normal. Vanessa et Julien peuvent répondre quand ils veulent. Daniel et Laure, vous attendez que je dise mon tout. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Je pense que tout le monde a. Mon deuxième est une céréale. Selon une chanson de Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, elle fait aussi mon troisième. Là, faut. Bon.
Oh non. C'est...
Mon quatrième est une marque de voiture américaine et mon tout est un acteur.
Avec Baldwin.
Harrison Ford.
Bonne réponse.
Allez.
De Daniel
Riolo. Hein.
Bah oui, la première lettre de l'alphabet.
Allez, bon week-end à tous.
Vous. La céréale, le riz.
C'est une céréale, ouais.
Quand la musique est bonne, elle sonne, évidemment.
Et
la
marque de voiture américaine.
Ford, Harrison Ford. Et ça permet à Julien de partir. Envoyer les
autres.
J'avais ce sur RMC avec VVF. 100 destinations en France pour profiter de vacances sport, culture et nature en famille. VVF, là où tout commence.
Bon, bah écoutez, Julien, bonnes vacances à vous. Vanessa, je suis désolée.
Beaucoup, hein. C'est super, merci beaucoup.
Et Vanessa, bah, vous revenez quand vous voulez, évidemment. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Il est arrivé dans le studio, Vincent Moscato. Salut Vincent.
Comment va ?
Eh ben elle va mieux.
Elle est magnifique.
Ouais. Ah, c'est gentil.
Ah, si, ça va bien.
C'est le maquillage. Hein.
Oui, non, mais t'es belle.
Il en a fallu une tonne, là,
moi, j'aurais mis du maquillage, j'aurais pas. Ça aurait été moins avec le climat. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez bien ?
Ouais.
Faille Nord, Marseille.
Ouais.
Faille Nord, rien que le nom m'amuse. Un événement en France, enfin à Marseille, c'est cette coupe. C'est cette coupe d'Europe.
Bon, oui, mais comme on n'en gagne pas d'autres, bon.
Ah donc, pour vous, on peut gagner un tournoi de pétanque.
Écoutez,
si ça marche, ça vaut quelque chose.
Bah oui, c'est quand même une Coupe d'Europe.
C'est bidon, vous mais les mecs qui te balancent, c'est même
ça rentrerait dans l'histoire.
La Coupe de la Ligue de Thiriès de Moustache, à l'époque. C'est en dessous. Non, mais arrêtez de rentrer.
C'est à notre mesure, Vincent.
C'est des choses qui rentrent dans l'histoire.
Mais on n'a rien d'autre.
Historique.
Eh ben, on n'a rien d'autre.
Sergio Ramos... Ouais. J'adore. Il insiste. Il veut rester, il est bien.
Bah, moi, je dis,
mais oui, mais comme il n'a pas fait.
Honnêtement, moi, 10 millions par an, je suis bien partout.
Bah, oui,
bien
sûr.
Bien toi aussi, non?
Même en moins.
Ouais, mais on l'aime quand même.
Même en moins.
On l'aime quand même, Daniel.
Mais non, mais j'ai coupé le salaire à deux. Je dis, puisque t'es amoureux du club, ça se sent que t'aimes le pelle.
Ouais.
On le sent en toi quand même. Et ici, crac! On coupe la poire à deux, mais je prends les deux côtés de la poire. Bon, je serai le PSG, je ferai ça.
Ça fera encore 600 000 euros,
Montpellier.
Ça
va. Tu sais qu'à Paris, le prix de l'essence, l'immobilier.
Oui,
faut ça pour finir le mois. Montpellier, La Rochelle, l'UBB, le Loup, le manque d'expérience. Pour arriver au bout.
C'est un handicap.
C'est un handicap.
Ouais, je crois,
Il croit que c'est un handicap.
Toi, j'ai rien qui, compris. Je suis pour l'UBB.
Le Loup.
Je sais pas, c'est quoi,
Lyon, on aime
plus
que...
C'est compliqué, cette émission.
La Rochelle.
Oui, ça, je connais. Ouais, on est très en retard.
La Rochelle,
oui. On me dit qu'on est en retard.
Solage.
Oui.
Tu la connais pas, cette chanson?
Non, pas encore. Non, mais je
une chanson
t'écouter.
De marin.
D'accord.
Le Moscaza,
mais on est en retard.
Le journal moyen.
Oui,
ça va être une émission...
Super.
The Little Onion.
Ok.
Un petit oignon.
Oui, voilà. On est très en retard. Merci. Merci, Vincent. Hein, le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on revient demain dans Estelle Midi. Midi 15h sur RMC. Bonne journée à tous.
RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.